Votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Enfin, il est 7h.
Pas étonné qu'il y ait la queue. On s'attend ce matin à avoir beaucoup de monde, être sur toute la journée, tout le week-end je dirais même, et jusque Noël maintenant.
Les commerçants n'attendent que cela. Après un mois de confinement, ils espèrent revoir leurs clients. Tous les magasins rouvrent leurs portes ce matin. C'est un soulagement pour les professionnels qui doivent toutefois se plier aux nouvelles règles sanitaires.
En pleine crise politique, Emmanuel Macron sort de son silence et reprend la main. Le président dénonce des images honteuses, demande à son gouvernement de réagir. 4 policiers toujours en garde à vue après l'agression d'un producteur de musique le week-end dernier.
C'est la dernière ligne droite pour le Brexit. L'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier, mais aucun accord pour l'instant n'a été signé.
Et puis tiens, un biathlon sans Martin Fourcade. Le quintuple champion olympique a pris sa retraite. Ses coéquipiers tenteront de lui faire honneur.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une petite musique qu'on va entendre ce matin un peu partout en France. Des rideaux de fer qui se relèvent comme une renaissance pour des dizaines de milliers de commerçants.
Après un mois de confinement, ils peuvent enfin rouvrir pour ces commerçants. Pas le droit à l'erreur. Il faut réussir ce premier week-end crucial à un mois de Noël. Alors partout en France, on s'est préparé comme dans ce magasin de jouets de l'homme à côté de Lille. Reportage de Maximilien Carlier.
Allez l'équipe, maintenant on a quelques minutes de l'ouverture là, donc j'ai fait un petit tour du magasin, il reste quelques boîtes à mettre dans les rayons au niveau du jeu de société.
Cyril Dessin, le directeur, motive ses salariés avant d'accueillir les premiers clients, il a des poches sous les yeux.
La nuit a été courte, mais c'était nécessaire.
Car il a fallu tout ranger, installer les sapins de Noël, mettre en rayon les jouets, appliquer le nouveau protocole sanitaire également. À l'entrée du magasin, Jordan, référent Covid.
Dès que les personnes rentrent, je contrôle le port du masque. Et j'ai une petite tablette, donc c'est ça qui change aussi. C'est que là, on a une jauge en direct des clients qui rentrent en magasin. Donc vert, les clients peuvent rentrer. Rouge, les clients ne peuvent plus rentrer.
337 personnes ou familles maximum à l'intérieur, sachant que l'année dernière, parfois, c'était 2000 visiteurs chaque jour. Donc des files d'attente, oui, il y en aura très certainement.
Je serais pas étonné qu'il y ait la queue. On s'attend ce matin à avoir beaucoup de monde, être sur toute la journée, tout le week-end, je dirais même, et jusque Noël maintenant.
Et toute l'équipe, tous les employés sont présents aujourd'hui avec des horaires étendus, fermeture à 21h. L'homme, Maximilien Carlier, Europe.
La réouverture se fait donc avec un protocole très strict pour éviter les nouvelles contaminations.
Et donc il y a des règles, mais aussi des amendes, Virginie Salmen.
Sur la devanture de chaque boutique, la jauge devra être indiquée et visible depuis l'extérieur. Dans les centres commerciaux, il devra y avoir un contrôle à l'entrée générale et un autre à la porte de chaque magasin. Le nombre maximum de clients devra aussi être respecté dans les allées, de façon à ce qu'il y ait 8 mètres carrés par client ou par unité sociale, selon le terme administratif. C'est-à-dire que si vous venez avec votre mère ou vos enfants, ce sera 8 mètres carrés pour vous tous. Les commerçants devront faire attendre le surplus de clients à l'extérieur. C'est à eux de faire respecter la jauge dans leur boutique. Il y aura des contrôles, assure le ministère de l'Intérieur. Et en cas de dépassement du nombre de personnes autorisées, le commerçant risque une amende de 135 € et une mise en demeure ou une fermeture administrative partielle ou totale. Les clients peuvent aussi être verbalisés dans des cas extrêmes. Si par exemple ils forcent le passage à l'entrée d'un magasin ou bien refusent de sortir s'il y a trop de monde, ils risquent seulement, dans le cas où ils violerait intentionnellement la jauge, une amende de 135 € qui peut être majorée en cas de récidive à 3 750 € et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement.
Virginie Salmen, et sachez que pour permettre aux commerçants de rattraper le plus de chiffres d'affaires possible, les horaires d'ouverture pourront être étendus. Le ministère du Travail demande aux préfectures d'accorder des dérogations pour travailler le dimanche. Et puis si vous avez des fourmis dans les jambes, sachez que vous pouvez désormais vous promener 3 heures et dans un rayon de 20 km. C'est l'un des aménagements au confinement. L'attestation toutefois est toujours indispensable.
En pleine crise politique, c'est l'autre sujet de ce journal, Marguerite. Dans le climat étouffant de ces derniers jours, Emmanuel Macron est donc sorti de sa réserve hier.
Le chef de l'État a publié un message sur les réseaux sociaux, message adressé aux Français. Les images de l'agression de Michel Zecler sont une honte, selon le président, qui demande une police exemplaire et qui appelle également son gouvernement à lui faire des propositions rapidement.
Une semaine après le passage à tabac de ce producteur de musique par des policiers, l'Élysée veut reprendre la main, d'autant qu'une grande manifestation est de nouveau organisée cet après-midi contre la loi Sécurité Globale. Louis de Raguenel, l'exécutif craint des affrontements.
Oui, d'autant que selon nos informations, les services de renseignement anticipent aujourd'hui une mobilisation à Paris d'environ 20 000 manifestants contre le gouvernement et près de 200 casseurs sont attendus. Et donc ça rappelle évidemment le mauvais souvenir des gilets jaunes pour l'Élysée. En tout cas, le contexte est suffisamment explosif pour qu'Emmanuel Macron décide de prendre la parole. Dans un message publié sur Facebook hier soir, sa consigne est claire. Le gouvernement doit lui faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance entre les forces de l'ordre et les Français. Car pour Emmanuel Macron, c'en est trop. Il avait déjà demandé en juin dernier à son ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de faire des propositions, mais surtout de les faire appliquer pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre. Alors cette séquence intervient vraiment au mauvais moment pour le chef de l'État, car vous savez, le 9 décembre, donc dans 10 jours, le projet de loi sur le séparatisme sera présenté en Conseil des ministres. Autant dire que le contexte n'est pas vraiment propice pour des débats sereins.
Merci Louis Dragnel et tous ces sujets, on les évoquera avec le maire RN de Perpignan, Louis Alliot. Il sera mon invité à 8h15.
S'agissant de l'enquête, les 4 policiers mis en cause dans l'affaire Michel Zecler sont toujours en garde à vue ce matin. On évoquait donc cette manifestation cet après-midi qui concentre l'attention de l'exécutif. Eh bien, à 400 km de là, c'est un autre rassemblement qui inquiète les autorités. Une manifestation contre l'installation d'une plateforme Amazon près de Nantes. Certains militants voudraient y installer une nouvelle ZAD. Reportage de François Coulon.
On attend au bas mot un millier d'anti-Amazon sur le site de Montbert. La préfecture redoute la présence parmi eux de membres de l'ultra-gauche, anciens combattants de Notre-Dame-des-Landes, qui pourraient créer ici une nouvelle ZAD, ce qui fait frémir Aïda Épicière.
Moi j'habite juste derrière et ça me fait un peu peur. C'est chaud quand même. Et surtout maintenant, avec le Covid, avec tout ce qui en passe de moments difficiles, il nous manque que ça. Amazon, ça va faire bouger la commune. Hein. Sûr, ça va ramener de monde. On est là pour monter la commune ou pour que tout ça soit fermé.
Les autorités ont interdit le transport de matières dangereuses et d'objets pouvant constituer une arme. Les fouilles de véhicules et de personnes seront renforcées. Ces menaces indisposent le président Les Républicains de la communauté de communes de Grandlieu, Johan Boblin.
Voir une minorité empêcher les projets avec de telles manifestations, avec des risques d'occupation, avec de l'ultra-violence, moi je trouve ça scandaleux. Nous allons avoir des filières entières qui vont connaître des plans sociaux. Amazon, en période chargée, c'est 2000 à 2500 emplois.
Pas question de céder au diktat de la violence, clament les élus locaux. Montebert, François Coulon, Europe.
Il est 7h07, c'est chaque année un moment crucial pour les banques alimentaires. Ça l'est sans doute encore un peu plus aujourd'hui compte tenu de la crise.
Depuis hier et jusqu'à dimanche, c'est la grande collecte dans les supermarchés. Vous pouvez acheter et donner des produits alimentaires non périssables. La banque alimentaire espère récolter ainsi 24 millions de repas. Le bilan de l'opération sera fait au terme du week-end, mais les bénévoles déjà constatent une très forte solidarité. Illustration dans le 14e arrondissement de Paris avec Pierre Herbulot.
Bonjour madame, on fait la collecte pour la banque alimentaire.
Sardines, sauce tomate, conserve, Patricia et Marine remplissent les petits sacs en papier de la banque alimentaire.
Je cherchais le kilo de riz ou autre.
Consciente que les besoins sont encore plus importants cette année.
Oui, oui, bah, vu la crise sanitaire qu'on a, on sait qu'il y a beaucoup de personnes en précarité. Donc c'est, je pense qu'il faut, le faire.
Particulièrement cette année, oui. On en parle partout, hein. Des besoins, du chômage qui augmente. Voilà, et je reviendrai demain.
Attends, on va mettre un autre sac.
À l'entrée du supermarché, deux bénévoles en gilet rouge chargent une petite montagne de dons sur un gros chariot. Direction l'antenne locale de la banque alimentaire. Ici, les denrées sont triées.
Des chocolats en tablette, des compotes.
La récolte commence bien, se félicite Jean-François Ribet, le directeur.
Et là, nous sommes à plus 30% d'activité par rapport à l'an passé. Pour l'instant, ça marche. Pour le Quesado, comme disait Mme Ramolino, il y a une tendance qui est positive. Il y a un élan vers les dons, en tous les cas. Hein, peut-être complètement inattendu. Et ce matin, on a été un peu, j'ai rameuté du monde parce qu'il y a un élan vers la générosité et vers les autres. Voilà.
Une très bonne nouvelle, mais qui compense à peine l'augmentation du nombre de bénéficiaires depuis le début de l'année.
Un reportage de Pierre Herbulot. Cette collecte est donc organisée jusqu'à demain soir.
On reparle ce matin du Brexit, Marguerite. Il prendra effet le 1er janvier. La date se rapproche, mais les conditions n'ont pas encore été tranchées.
Et pendant que l'heure continue de tourner, Michel Barnier, lui, continue de traverser la Manche. Le négociateur de l'Union européenne est une nouvelle fois à Londres. Bruxelles espère faire avancer le dossier ce week-end, Isabelle Horry.
Les Européens le reconnaissent, même dans la dernière ligne droite, ils ne savent toujours pas ce qu'il y a dans la tête de Boris Johnson. Alors que le temps presse, ils en sont encore à spéculer sur la volonté du Premier ministre britannique de conclure vraiment un accord. Et pourtant, les prochaines heures seront critiques, car bientôt, il n'y aura plus matériellement le temps de conclure. Il faut en effet garder quelques semaines pour traduire dans toutes les langues les 600 pages de l'éventuel traité, et il faut que les parlements européens et britanniques le ratifient avant la date effective du Brexit, ce sera le 1er janvier prochain. Alors, une grosse partie du travail a été fait, entre 80 et 90%, dit-on à Bruxelles. La possibilité technique d'un accord est encore là, mais sa possibilité politique dépend des Britanniques, résume un diplomate européen. En fait, on attend toujours la percée sur les sujets qui fâchent depuis le début, c'est-à-dire la pêche et les conditions d'une concurrence loyale après le Brexit. Les 27 ont en tout cas demandé à la Commission européenne d'activer les préparatifs d'une sortie sans accord. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe.
Grâce à lui, tout le monde ou presque sait que le biathlon, c'est du ski de fond et du tir à la carabine. Et en 15 années de carrière, Martin Fourcade a réussi à populariser son sport.
La saison de biathlon reprend aujourd'hui, sauf que Martin Fourcade n'est plus là. Le jeune retraité regardera ses copains à la télévision. Rassurez-vous, côté français, on a encore de la ressource à l'image du jeune Émilien Jacquelin.
Je pense que de manière générale, on attend que l'équipe de France rayonne comme l'a très bien fait Martin ces dernières années. Donc il y a, je ne sais pas, comme vous l'avez dit, si on peut appeler ça du stress. En tout cas, il y a une réelle volonté de bien faire de ma part et de la part de l'équipe. L'an dernier, j'ai fait 8 podiums au total individuel. Donc voilà, l'objectif cette année, ce sera de décrocher du coup une première victoire en Coupe du Monde, ça c'est certain.
Oui. Émilien Jacquelin avec Axel May. Il y aura du foot également ce soir. 12e journée de Ligue 1 avec notamment le choc entre le PSG et Bordeaux. Rencontre capitale pour les Parisiens avant de retrouver la Ligue des Champions mercredi, Julien Froment.
Après la défaite embarrassante 3-2 à Monaco la semaine dernière, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel l'a promis, cette fois-ci, pas de relâchement contre Bordeaux, même si le match le plus important se jouera mercredi prochain en Ligue des Champions face à Manchester United.
On a des matchs cruciaux en Ligue des Champions, mais en même temps, on doit dire que c'est un bon rythme parce qu'on a beaucoup de temps pour récupérer après le match contre Leipzig, avant Bordeaux et après Bordeaux. Ça veut dire qu'on peut laisser jouer, c'est pas trop de réfléchir, de gérer des minutes. Et pour ça, on doit gérer les deux matchs, mais c'est plus facile maintenant.
Le Paris Saint-Germain, privé de son capitaine Marquinhos, laissé au repos, retrouvera en revanche l'Italien Marco Verratti, qui en 12 minutes mardi dernier contre Leipzig a métamorphosé le jeu de son équipe. Quant à Kylian Mbappé et Neymar, en manque de rythme, ils devraient également monter en régime contre une équipe bordelaise, certes revigorée, mais peu à l'aise dans la capitale. Les Girondins n'ont plus gagné au Parc depuis 10 ans.
Et l'autre match ce soir, c'est Marseille-Nantes. Du foot au rugby, le 15 de France affronte l'Italie ce soir pour une place en finale de la Coupe d'automne des Nations.
L'Italie est à la portée de la France, mais cette fois, les Bleus font tourner leur effectif. La plupart des titulaires sont dans leur club. Résultat, Simon Rubin, on fait appel aux petits nouveaux.
On est dans une semaine qui va être très particulière. Ça va aller très vite. Donc, on va essayer de faire simple.
L'accueil de Raphaël Ibanez, le manager, à ce nouveau groupe France, capté par les micros de la FFR, dans l'équipe qui jouera ce soir. 11 joueurs feront leur grande première et il fallait donc les accueillir comme il se doit.
Bien sûr, certains donc sont capés au sein de ce groupe, d'autres ne le sont pas. Mais nous avons bien insisté sur le fait qu'ils font partie du groupe France.
Et les nouveaux joueurs ont aussi croisé les habituels titulaires en début de semaine. Ils ont pu discuter, mesurer leurs chances et le poids des responsabilités aussi. Parmi les nouveaux, des profils atypiques comme Gabin Villière à l'aile. Il a tapé dans l'œil de Fabien Galthié, le sélectionneur.
Au départ, il n'était pas dans les radars lorsqu'il était jeune. Après son bac, avec son papa, ils ont fait le tour des centres de formation. Personne ne l'a pris en fait. Et il a commencé à jouer à Rouen. Et il a cassé la baraque, il a marqué 2 essais, puis il a enchaîné derrière. Et de par son chemin, je pense qu'il a une force en lui qui transmet à l'équipe. Naturellement.
De la jeunesse donc et des joueurs moins en vue ces derniers temps comme Baptiste Serin, le capitaine, qui auront une belle occasion pour se montrer à 2 mois du tournoi Destination.
Simon Rubin.
Merci, c'était le journal de Marguerite Lefebvre. À tout à l'heure, 8h.